Bonsoir à tous.
Oui, je m'appelle Gilles Despin, je suis du Québec. Shawinigan, un nom amérindien qui a un lien avec les cascades, les chutes d'eau par chez nous. Donc, j'ai grandi dans cette région. Et puis, j'ai un lien avec la Suisse depuis longtemps, à travers la littérature, particulièrement à travers la littérature. À travers aussi des frères bien-aimés qui m'ont entouré, qui m'ont aidé à grandir dans la foi, dont M. Bernet. Puis là, j'ai vu sa sœur tout à l'heure, mais c'est incroyable, il ressemblait à ce point-là. Ça m'a bouleversé, je dois l'avouer. C'était comme si je voyais à nouveau un de mes mentors en face de moi. Et ça m'a vraiment touché. Je suis heureux de vous rencontrer, Suzanne. Et puis, je connais quelques visages déjà aussi. Et puis, donc, j'ai un fardeau sur le cœur pour les assemblées de frères au Québec. Je travaille beaucoup dans la formation pour que nous puissions développer une approche de l'étude biblique qui soit saine, qui soit cohérente, qui soit constante, qui tient compte de la révélation progressive de Dieu depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Et ce fardeau sur mon cœur pour nos assemblées s'est transporté jusqu'en Suisse il y a quelques années déjà. Et je parlais avec Nathanaël il y a au moins peut-être 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus. Mais déjà, on partageait ce fardeau-là ensemble. Et je lui disais, j'aimerais vraiment pouvoir être utile à l'œuvre du Seigneur en Suisse. Si Dieu ouvre les portes, et là, ces portes se sont ouvertes. Et puis, je suis vraiment heureux de pouvoir être ici avec vous. Ce soir, on m'a confié un passage en particulier, ce passage que vous voyez à l'écran, Marc 12, les versets 28 à 34, et nous allons les lire premièrement, et ensuite essayer de comprendre le plus grand commandement dans son contexte de l'Écriture. Peu importe le texte que je lis dans la Bible, j'ai toujours le réflexe de me poser la question: où ce passage se situe-t-il dans le contexte de la révélation progressive de Dieu? La Bible n'est pas tombée d'un morceau du ciel, mais elle a été donnée de façon progressive par Dieu depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Et donc Dieu se révèle progressivement, révèle ses plans à l'égard de l'humanité, à l'égard d'Israël et à l'égard de l'Église également. Et la venue du Seigneur Jésus sur la terre est le point central de cette révélation progressive. Il est le point culminant de la révélation progressive. Donc, en lui s'accomplit tout ce qui était derrière lui, mais aussi ce qui vient après lui. Sa mort à la croix a posé les fondements à tout ce qui vient par la suite, dont la Nouvelle Alliance, entre autres. Mais le Seigneur Jésus est venu sur la terre à un moment particulier, dans un cadre et un contexte particulier, alors que la loi mosaïque était toujours en vigueur. Nous allons donc lire ce texte. Je lis dans la traduction de Darby, Marc 12, verset 28. Et l'un des scribes qui les avait ouï disputer, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda: « Quel est le premier de tous les commandements? » Et Jésus lui répondit: « Le premier de tous les commandements est, « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est un seul Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est là le premier commandement. Et le second lui est semblable: « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » « Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceux-ci. » Et le scribe lui dit: « Bien, maître, tu as dit selon la vérité, car il y en a un et il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur et de toute son intelligence et de toute son âme et de toute sa force et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Et Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Dans le contexte, ce passage fait partie d'une série de controverses qu'il y a eu entre le Seigneur Jésus et les chefs religieux juifs, de Jérusalem en particulier. Et cet événement ici se produit à la fin de la troisième année de ministère public du Seigneur Jésus. Donc, il est venu ici-bas sur la terre, 30 ans de vie dans l'obscurité, et ensuite, révélation au baptême, et puis Jésus entame 3 années et quelques semaines de ministère public. Et là, nous nous trouvons à la fin de son ministère public, juste avant la semaine de la Passion, juste avant cette semaine pour laquelle Jésus est né, spécifiquement. Nous pouvons diviser ce passage, et je vais le présenter maintenant, en 6 sections. Premièrement, nous avons une introduction du narrateur, c'est-à-dire Marc dans ce cas-ci, qui nous introduit cet épisode de la vie de Jésus dans son ministère public. Nous avons au verset 28b, dans la deuxième partie du verset, la question d'un scribe. Ensuite, nous avons la réponse de Jésus dans les versets 29 à 31. Nous avons ensuite un commentaire du scribe, versets 32 et 33. Un commentaire de Jésus, verset 34a. Et la conclusion du narrateur qui se trouve au verset 34b. Ce que nous allons faire pour ce soir, Dieu voulant, nous allons nous concentrer sur la première partie de la réponse du Seigneur et non pas nous occuper de tout ce qui concerne ce passage, évidemment. Et Dieu voulant, au mois de novembre, je reviendrai et je reprendrai la deuxième partie de la réponse du Seigneur, celle concernant le commandement d'aimer son prochain comme soi-même. C'est ce que nous verrons, Dieu voulant, au mois de novembre. Maintenant, pour bien comprendre la portée et la force de ce commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence, ou sa force, ou sa pensée, nous voyons plusieurs éléments ici, eh bien, il est nécessaire de retourner au début de la révélation progressive de Dieu et comprendre le contexte original de ce commandement. Alors, vous voyez, lorsque Jésus répond à la question du scribe, il n'apporte pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui était déjà donné auparavant dans la révélation progressive, et cela se trouve dans le livre du Deutéronome, et c'est là que nous allons tourner ensemble. Deutéronome 6, les versets 4 et 5. Alors, je lis le texte. Deutéronome 6, verset 4. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul Éternel. » Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Ce sont les paroles originales mentionnées par le Seigneur. Et ces mots sont connus en Israël comme étant le schéma d'Israël. Le schéma. Enfin, ça vient des 2 premiers mots du verset. Le schéma Israël signifie « Écoute, Israël ». C'est la profession de foi des Juifs. Ce qu'il croit, il croit en un seul Dieu. Donc, il est clair que le commandement s'adresse à qui? Aux Juifs, à Israël, avant tout. Alors, le commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et selon les évangiles, et nous allons voir ce phénomène un peu plus tard, de toute sa pensée, ça s'adresse premièrement au peuple juif. Ce n'est pas un commandement qui a été donné à l'Église, originalement dans le contexte. Ce n'est pas un commandement qui a été donné aux nations, mais à Israël. C'est la confession de foi d'Israël. Il s'adresse à eux. Mais vous remarquez quand même que le plus grand commandement est distinct des 10 commandements. Il ne se trouve pas dans le Décalogue. Il ne se trouve pas dans Exode 19, mais bien dans Deutéronome 6. Le plus grand commandement. Distinct de la loi mosaïque. Bien qu'on peut dire que le verset quand même 4, l'Éternel est un seul Dieu, rappelle le premier commandement, il n'y a aucun doute. Mais c'est quand même distinct du commandement du Décalogue, le premier commandement du Décalogue. Littéralement, le texte en hébreu dit, je vais spécifier, simplement écouter, en regardant le verset 4 de vos yeux, et je vais le traduire littéralement, depuis le texte original. Le texte en hébreu dit... Écoute, Israël, Yahweh, c'est le nom de l'alliance de Dieu révélée à Israël. Yahweh. C'est traduit par l'Éternel, parce que Yahweh vient du verbe hébreu Chaya, qui signifie vivant ou vivre. Donc, Yahweh, l'Éternel, celui qui vit pour toujours. L'Éternel, c'est une bonne traduction pour le tétragramme en hébreu, YHVH. Et c'est Olivetan, le premier, en 1532, qui a attribué ce terme, l'Éternel, à Yahweh. Alors, littéralement, nous lisons, « Écoute Israël, Yahweh, notre Dieu, Yahweh est un. » On répète, « Yahweh, Israël, notre Dieu, Yahweh est un. » Il était important que le peuple d'Israël reconnaisse que Yahweh était un Dieu unique. Surtout que le peuple allait entrer dans le pays de Canaan, là où il y a plusieurs dieux. Des faux dieux, évidemment. Mais à travers tous ces faux dieux, il y a un seul Dieu. Un commentateur biblique a déjà dit « Israël était une île monothéiste au milieu d'une mer polythéiste. Un peuple qui adorait un seul Dieu au milieu de nations qui adoraient plusieurs dieux. » Israël, au départ, devait savoir qu'il y a un seul Dieu, c'est Yahweh, c'est le Dieu d'Israël. C'était important qu'il reconnaisse cela, un seul Dieu, ce Dieu d'Israël, avec son peuple, avec lequel il a fait plusieurs alliances, des alliances qui sont inconditionnelles, irrévocables, éternelles. Vous savez, Yahweh a fait 5 alliances avec Israël. 5 alliances. Une seule est conditionnelle et temporaire, c'est l'alliance mosaïque. Mais les 4 autres alliances sont éternelles, sont irrévocables, unilatérales. Ce sont les alliances abrahamiques avec Abraham, l'alliance du pays, promesse de donner la terre d'Israël à son peuple, l'alliance davidique, un roi, un trône, un royaume, et la nouvelle alliance faite avec Israël. C'est important de reconnaître qui est Yahweh et qui est l'Éternel, justement pour son peuple Israël. Et en même temps, il y a un problème, parce qu'en hébreu, dans ce texte, Yahweh, notre Dieu, c'est Yahweh Elohim. Elohim est un mot hébreu pluriel. Tous les mots en « im » sont des mots pluriels en hébreu. Alors, comment comprendre que Yahweh est un seul Dieu, mais tout étant pluriel quant à son nom, sa description? Bien, la révélation progressive de Dieu nous apprendra plus tard qu'il y a un seul Dieu révélé en 3 personnes. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Elohim. Yahweh est Elohim, plusieurs personnes en un Dieu unique. C'est le mystère de la Trinité. Et comment le comprendre? Impossible. Nous ne pouvons pas comprendre ce mystère, mais nous devons le croire. Dieu est un Dieu unique, révélé en 3 personnes, et c'est un grand mystère sans contredit. Et pourtant, Israël était appelé à reconnaître ce Dieu manifesté en plusieurs personnes comme étant un Dieu unique. Et Israël a cru cela, comme nous le croyons, j'espère, dans l'Église aujourd'hui. Mais remarquez que ce n'est pas tout. Il y a un « et » qui suit cette affirmation. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul éternel et. » Vous voyez le « et » ? C'est une conjonction de coordination qui lie les deux phrases. Israël devait reconnaître que Dieu est un Dieu unique, mais ce n'est pas tout. « Tu aimeras Yahweh, ton Dieu. » Israël était appelé non seulement à reconnaître que Dieu est un seul Dieu, un Dieu unique, mais qu'il est aussi appelé à l'aimer, ce Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Ce Dieu unique, tu l'aimeras. La traduction d'Arbi du verset 5 dit « Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. » Cependant, le mot « force » n'est pas dans le texte hébraïque. Ce n'est pas le mot « force » qui est là. Littéralement, le texte dit ceci, écoutez bien. « Tu aimeras Yahweh, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. » Jusque-là, c'est pareil. Ça va? Mais ce n'est pas « et de toute ta force ». En hébreu, c'est « mehod ». « Et de tout ton beaucoup ». « Mehod », beaucoup. C'est le mot qu'on utilise en hébreu « me'od » pour dire « beaucoup » ou « très ». T-R-E, accent grave, S. Très. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et de tout ton beaucoup. C'est bizarre un peu. Mais ce texte en hébreu sous-entend une abondance. Le mot hébreu « me'od » vient probablement d'un ancien dialecte qui se disait acadien « ma'houd ». « Me'od » vient probablement de « ma'houd » et ce terme signifiait « abondance ». Toutes tes possessions, tout ce que tu as, c'est ton « ma'houd » et c'est le « me'od » en hébreu. Ça commence à avoir un certain sens un peu différent de ce que nous sommes habitués de voir. Généralement, lorsque nous interprétons cette phrase « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force ou bien même de toute ta pensée » parce que ça, c'est dans le Nouveau Testament et pas dans l'Ancien. Nous verrons pourquoi dans quelques instants. Eh bien, quand nous voyons ce verset, nous avons tendance à penser qu'il faut aimer Dieu de tout son être intérieur. Cœur, âme, force, pensée, c'est tout à l'intérieur ça. Donc, tu aimeras le Seigneur de tout ce que tu es à l'intérieur. Mais ce n'est pas tout à fait ce que le texte en hébreu veut suggérer. Regardez ce diagramme. Il représente le texte en hébreu. De tout ton cœur, lev, de toute ta personne, nefesh, et de tout ton beaucoup, traduit par force, par darbi. C'est ton me'od. Et plutôt que de parler de simplement de l'homme intérieur, c'est-à-dire c'est à l'intérieur ou spirituellement qu'on doit aimer Dieu, le texte en hébreu suggère autre chose. Il suggère plutôt qu'on doit aimer Dieu depuis l'intérieur jusque vers l'extérieur. Non seulement à l'intérieur dans notre cœur, mais aussi à travers tout ce que nous sommes, notre personne, nefesh. Souvent traduit par « âme », et c'est bien, correspond au grec « psyché ». Et ce terme parle de toute la personne, toute la vie, tout ce que nous sommes. Alors oui, depuis le cœur, l'intérieur, et le cœur, dans la culture biblique, ce n'est pas le siège des émotions, mais le siège de la volonté, de la décision, de la personnalité, de l'engagement. Alors tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ce que tu es, toute ta personnalité, de toute ta personne, et nefesh englobe même ta façon de vivre. Ton travail, tes passe-temps, c'est ta personne. Tu dois aimer Dieu dans ton travail, dans tes passe-temps, dans tes loisirs, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es. Ça part de l'intérieur, ça va vers l'extérieur. Et finalement, me'od, de toutes tes ressources, de tout ce que tu as, de tout ce que Yahweh te prête, ici-bas, tu dois l'aimer avec tout ça. Voyez-vous comment le texte en hébreu, il est beaucoup plus riche que cette vision générale de voir, oui, c'est spirituellement qu'on doit aimer Dieu. Oui, et ça doit se voir aussi dans la gestion de ton temps, dans la gestion de tes ressources, de ton argent, de tes biens et de tout ce que tu es. C'est beaucoup plus fort. Alors en réalité, ce que Moïse était en train de commander lorsqu'il disait à Israël d'aimer Dieu de tout leur cœur, de toute la personne, de toutes les ressources qu'ils ont, c'était des implications qui englobaient tout ce qui est dans notre vie. Tout ce qui est dans notre vie. C'est beaucoup plus que de simplement dire « aime le Seigneur de tout ton homme intérieur, aime-le spirituellement ». C'est beaucoup plus que ça. Tous les aspects de la vie. Tous les aspects de la vie. C'est ce que ce commandement prescrivait à Israël. Wow! La barre est haute. Est-ce que le but d'observer ce commandement était pour être sauvé? Non, parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres dans la Bible. Jamais! Le but de ce commandement s'adressait à ceux qui connaissent Yahweh. À ceux parmi Israël qui le connaissaient. Alors c'est à eux que s'adressent les commandements de la loi mosaïque. Ce sont eux seuls qui peuvent les observer, quoique avec plusieurs chutes, mais ils se relèvent parce qu'ils ont tout un système de sacrifices qui leur permettent de rétablir la communion avec Dieu. Jamais la loi mosaïque n'avait pour but d'amener le salut. C'est impossible. C'est le salut par les œuvres et la Bible. déclare clairement, sans aucun détour, que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Personne. Et c'était vrai pour Israël. Alors, ce commandement d'aimer Dieu comme ça s'adressait au peuple de Dieu, aux croyants en Israël. Alors, il est clair que ça s'adresse à Israël. Il fait partie du contexte de l'Alliance mosaïque. Il fait partie du contexte du peuple de Dieu. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais je peux vous mentionner rapidement 6 buts de la loi mosaïque. Parce qu'après, nous allons réfléchir à une question. Puisque le commandement, le plus grand commandement, fait partie de la loi mosaïque et qu'il s'adresse à Israël, est-ce que les chrétiens de l'Église doivent lui obéir? C'est difficile de répondre non. Parce qu'en réalité, c'est le plus grand commandement à mentionner par Jésus lui-même. Mais nous allons voir en contexte ce que dit la Bible à ce sujet. J'aimerais simplement vous mentionner 6 buts qu'avait la loi mosaïque pour s'assurer que notre compréhension de la loi mosaïque et des commandements de l'Ancien Testament sont très clairs dans notre esprit. Premièrement, la loi mosaïque devait révéler la sainteté de Dieu. Dieu est un Dieu 3 fois saint. C'est le premier but de la loi mosaïque. Et puisque Dieu est saint, il y a des standards de justice qui devaient être observés pour s'approcher de lui. Je mentionne un verset simplement pour qu'on le note, si vous voulez le noter. Lévitique 19, versets 1 et 2. Deuxième but de la loi mosaïque. Il devait offrir un code de conduite au sein de l'Ancien Testament. Un code de conduite, non pas pour être sauvé, mais parce qu'on appartient à Dieu et qu'on croit en Dieu. Donc, les croyants juifs devaient apprendre, comme le psalmiste le dit dans le psaume 119, à aimer la loi de l'Éternel. Quel croyant aujourd'hui dirait « J'aime le Lévitique » C'est exactement le psaume 119. « J'aime les commandements de la loi mosaïque. » C'est incroyable. C'est un code de conduite pour les croyants d'Israël. C'était le deuxième but de la loi mosaïque. Apprendre à aimer la loi du Seigneur. Le mettre en pratique dans nos vies. Troisième but. Donner à Israël l'opportunité de célébrer des cultes d'adoration en communauté. Et là, je pense aux fêtes de l'Éternel. Donc, c'est dans le contexte de la loi mosaïque que Dieu a donné à Israël l'opportunité de l'adorer en communauté. Lévitique 23, les fêtes de l'Éternel, au nombre de 7. Quatrième but de la loi mosaïque, faire d'Israël un peuple distinct de tous les autres peuples par les lois spécifiques, comme celles qui touchaient, par exemple, la tenue vestimentaire. C'était pour Israël, dans le contexte d'un peuple distinct des autres peuples, régime alimentaire et beaucoup d'autres. Et en plus, cette loi mosaïque créait un mur de séparation entre juifs et païens ou autres nations. C'est important de réaliser le but de la loi mosaïque ici. Cinquième but, révéler le péché. C'est ce que Paul nous explique dans Romains 7. La loi révèle le péché. La loi, parce qu'elle est parfaite, elle est sainte, elle est juste et bonne, et que Israël est un peuple pécheur, eh bien, la loi révèle le péché dans le cœur d'Israël. Et c'est un but pourquoi Dieu a donné la loi mosaïque à Israël. Et finalement, Israël devait reconnaître son incapacité à garder la loi. Et le sixième et dernier but, conduire à Christ. Conduire au Messie. La loi, selon Paul, aux Galates, dans les Galates, vous avez lu cette épître, a été donnée comme un conducteur, un précepteur, un pédagogue, un professeur qui enseigne Israël jusqu'à ce que Christ vienne. Avec la venue de Christ, qu'est-ce qui est arrivé à la loi mosaïque? Elle est arrivée à son terme. La loi mosaïque est arrivée à son terme avec la venue du Seigneur Jésus. Toute la loi ou seulement la loi cérémonielle et la loi morale toujours en vigueur? Laissez-moi vous suggérer quelque chose. Je ne crois pas que la Bible enseigne une seule fois qu'il y ait cette distinction dans la loi mosaïque entre les commandements de la loi morale, les commandements de la loi civile et les commandements de la loi cérémonielle. Je ne crois pas à ça. Ça, c'est une façon humaine de diviser les commandements. Mais la Bible nous présente la loi mosaïque comme étant un tout unique. Il y a 613 lois dans la loi mosaïque, incluant le décalogue, les 10 commandements. 603 plus 10, 613 lois au total. Et toutes ces lois sont vues comme un ensemble. Jacques nous dit d'ailleurs, si quelqu'un pêche contre un seul commandement, il pêche contre tous les commandements. Parce qu'il y a une unité de cette loi mosaïque. Alors, avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, la loi mosaïque est arrivée à son terme. Elle est terminée. Toute la loi. J'ai pas fini. Faut pas jeter des pierres tout de suite. Faut attendre à la fin. Et puis même à la fin, donnez-moi 2 minutes pour me sauver. Paul dit ceci. Écoutez bien ce que dit Paul. Romains 7, verset 6. Nous avons été déliés de la loi, étant morts dans ce en quoi nous étions tenus, en sorte que nous servions en nouveauté d'esprit. C'est Romains 7, verset 6. Il déclare encore, Christ est la fin de la loi. Pour justice à tout croyant. Romains 10, verset 4. Christ est la fin de la loi. Là, j'ai 2 passages qui le confirment. Et troisièmement, troisième passage, la loi a été notre conducteur jusqu'à Christ afin que nous fussions justifiés sur le principe de la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous un conducteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Est-ce que la loi mosaïque est toujours en vigueur? La réponse, d'après l'apôtre Paul, autorité apostolique, 2 lettres, 3 passages, non. La loi mosaïque n'est plus en vigueur, elle est terminée. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a plus rien à nous enseigner? Non plus, parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, nous convaincre, nous reprendre, nous instruire dans la justice. 2 Timothée 3,16, et cela inclut la loi mosaïque. Toute écriture, c'est tout l'Ancien Testament principalement d'ailleurs. Et Paul va même redire à 2 autres endroits que les choses qui se sont produites dans l'Ancien Testament, les choses qui sont arrivées à Israël nous ont été données ou même écrites pour notre instruction. Donc, il est faux de dire que la loi mosaïque n'a plus rien à nous dire, mais il est aussi faux de dire que nous sommes sous l'obligation d'observer la loi mosaïque. Bien sûr que non, nous sommes des croyants de l'Église, nous ne sommes pas Israël. Donc, le croyant de l'Église n'est pas tenu d'observer les commandements de la loi mosaïque, peu importe le commandement, même celui-ci. Il n'a pas tenu de l'observer. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas placés dans une relation d'alliance avec Dieu. Nous ne sommes pas placés dans une relation d'alliance. Nous sommes placés dans une relation de grâce par laquelle... À travers l'élection, nous sommes devenus l'épouse de Christ, le corps dont il est la tête. Ça, c'est différent. Alors, notre relation entre l'époux et l'épouse, ou le corps et la tête, n'est pas sur le fondement d'obéissance à des lois, mais plutôt à un lien direct par le Saint-Esprit, à une relation vivante, authentique, directe par le Saint-Esprit. Le commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, ou de tout son beaucoup, de toute sa force, il apparaît à plusieurs reprises par la suite dans le livre du Deutéronome, mais c'est vrai sous des formes un peu différentes. Après, où trouve-t-on le premier commandement d'aimer Dieu de tout son cœur? Après Deutéronome, où le trouve-t-on dans la Bible? Est-ce que quelqu'un le sait? Dans les prophètes? Dans les livres poétiques? Non. Dans le Nouveau Testament. Il faut partir de Deutéronome et pouf! Atterrir dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, pour retrouver à nouveau ce grand commandement qui est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, ainsi de suite. Ce qui nous ramène à notre passage de départ, Marc 12, verset 30. Maintenant, nous allons nous rendre à ce passage... et le regarder d'un peu plus près. Et ce que je veux faire, je veux insister sur le contexte de Marc, sur le contexte des évangiles, sur le contexte de Jésus. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui disent aujourd'hui et qui pensent que ce qui est plus important dans la Bible, c'est ce que Jésus dit. Ce n'est pas tout à fait exact. Ce qui est plus important dans la Bible, c'est tout ce que la Bible dit. Est-ce que les paroles de Jésus en rouge dans une version sont plus importantes que les textes en noir écrits par Luc, Marc, Pierre ou Paul ou Jude? Non, c'est la parole de Dieu. Maintenant, est-ce que l'Église repose sur les paroles de Jésus? Est-ce que l'Église repose sur l'enseignement de Jésus? La véritable réponse à ça, c'est oui et non. Oui, parce qu'il est la pierre angulaire. Mais non, parce que c'est l'enseignement des apôtres qui forme la doctrine de l'Église. Parce que quand Jésus est sur la terre, il est toujours dans le contexte de l'Ancien Testament. Les évangiles sont dans le Nouveau Testament, mais en réalité se passent dans un contexte de l'Ancien Testament. Lorsque Jésus exerce son ministère public, la loi mosaïque est toujours en vigueur. D'ailleurs, il obéit à la loi mosaïque. Il se soumet entièrement. Même s'il est le Fils de Dieu, il n'entre jamais dans le temple parce qu'il n'a pas le droit d'entrer là. Il n'est pas un Lévite. Il est de la tribu de Juda. Donc, il ne peut pas entrer dans le temple. Bien sûr, il va au temple. Il va dans l'enceinte du temple. Il se rend jusqu'au parvis des femmes. Mais c'est tout, il ne va pas plus loin. Il ne peut pas. Eh bien, il est le Fils de Dieu, mais il est un Juif dans l'incarnation. Et en tant que Juif de la tribu de Juda, il se soumet entièrement à toute la loi mosaïque et elle est toujours en vigueur. Alors, lorsqu'il répond à ce scribe, il répond dans le contexte de la loi mosaïque, nous ne sommes pas dans l'Église. Dans les évangiles, l'Église n'existe pas. Quand Jésus en parle, c'est toujours de façon prophétique. Quand Jésus parle de l'Église, il dit « Je bâtirai mon Église au futur » et l'Église débute en acte 2. Et dans les actes, l'Église subit une transition. Elle devient l'Église, formée de juifs et de païens en un seul corps, dont Christ est la tête. Et puis nous avons dans les épîtres la doctrine qu'il nous faut croire, sur laquelle nous nous reposons. Et cette doctrine elle-même, bien sûr, repose sur l'enseignement autoritaire de Christ. Mais il faut discerner, lorsque nous lisons dans l'Écriture, où nous sommes exactement. Si nous lisons dans les Évangiles, il faut prendre conscience que la loi mosaïque est toujours en vigueur. Toujours en vigueur. Et que Christ s'y soumet, et que c'est sa mort qui va mettre fin à la loi mosaïque. C'est sa mort qui va mettre un terme à la loi mosaïque. Et se rappeler ce contexte est fondamental pour bien interpréter les Écritures. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur un détail concernant le passage de Marc. Lorsque Marc cite Deutéronome 6, verset 5, dans les évangiles évidemment, il présente des différences assez importantes. Marc parle d'un « aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force ». Force correspond avec la traduction d'Arbi, même si c'est « me'od », ressource, dans le texte hébreu. Et pensée, d'où vient ce terme? Regardez bien le tableau qui suit. Nous avons ici un tableau des évangiles synoptiques qui nous présente la citation de Jésus du plus grand commandement. Nous avons les différences. Matthieu parle de cœur, âme et pensée. Marc parle de cœur, âme, pensée et ajoute force. Et Luc a les quatre mêmes éléments, mais inversés pour les deux derniers, force et pensée. Le texte en hébreu utilise seulement trois mots et le texte des évangiles synoptiques, sauf Matthieu, utilise quatre mots. D'où vient cette différence? Eh bien, apparemment, les auteurs du Nouveau Testament, Marc, Luc, Matthieu, n'ont pas cité la même source. Est-ce que vous connaissez la Bible de Jésus? Est-ce que vous savez c'était quoi la Bible de Jésus?
La Septante.
La Septante, exact. C'était la Septante, principalement. Vous savez c'est quoi la Septante? C'est une traduction grecque de l'Ancien Testament qui a été produite vers 280 avant Jésus-Christ, sous le commandement d'un général grec basé en Égypte qui s'appelait Ptolémée Philadelphe. et qui voulait meubler la bibliothèque d'Alexandrie, une des sept merveilles du monde antique, qui voulait meubler cette bibliothèque avec la littérature du monde entier, incluant la littérature juive. Et il a mandaté, selon les traditions et les légendes, il y en a plusieurs autour de ce phénomène, il a mandaté 70 rabbins ou scribes juifs qui auraient pour but de transcrire ou de traduire plutôt le texte en hébreu de la Torah en grec pour la mettre dans la bibliothèque d'Alexandrie. Et au temps du Nouveau Testament, c'était la Bible de Jésus. Jésus n'utilisait presque pas le texte original. C'est curieux, hein, quand même. Mais il utilisait une traduction, comme les apôtres d'ailleurs. Alors, il existait au temps du Nouveau Testament plusieurs versions grecques de l'Ancien Testament. Et apparemment, nos auteurs qui nous ont rapporté ces paroles ont cité différentes sources. Et je vois un travail de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous croyez à l'inspiration des Écritures? Moi, j'y crois de tout mon cœur. Je crois que Dieu a donné les mots précis qu'il fallait écrire à ses auteurs. Et dans leur contexte à eux, ils ont cité des sources différentes pour que nous ayons plus de mots, pour nous aider à comprendre la force du mot hébreu original « me'od », « ressource », traduit par deux mots, « pensée » et « force ». Ces deux mots sont très importants. Dans la notion de « force », qu'est-ce qui fait la force d'un homme au premier siècle? Ce n'est pas ses gros bras. Qu'est-ce qui fait la force d'un homme? Sa famille et son troupeau. Ses biens. Plus on a de richesses, plus nous sommes considérés comme étant forts. Et le mot « penser » se réfère principalement à la façon de penser, c'est-à-dire à la façon de gérer les ressources qui font notre force. Alors, vous voyez que sous la conduite de l'Esprit, le Nouveau Testament a choisi deux mots pour traduire « me'od », les ressources, ce qui représente tout ce que tu es, toute ta force, toute ta richesse, tout ton héritage, eh bien, force et pensée. Force et pensée. Non seulement les ressources elles-mêmes, force, mais aussi la façon de les gérer. Pensée, wow! Alors, au temps du Seigneur Jésus, alors que la loi mosaïque est toujours en vigueur, lorsqu'on lui pose la question « Quel est le plus grand des commandements? » Jésus répond « Vous devez aimer Dieu comme ça. » Avec tout ce que vous avez, avec tout ce que vous êtes, avec tout ce qu'il y a dans votre vie, toute votre personne et ainsi de suite. Voilà comment il faut aimer Dieu. Maintenant, ça c'était vrai parce que Jésus était sous la loi mosaïque, que Israël était toujours dans l'attente de son Messie, même s'il était sur le point de le rejeter, nous sommes toujours dans cette réalité presque de l'Ancien Testament. Et puis, la loi mosaïque n'est pas encore terminée. Qu'est-ce qui arrive après la croix? Est-ce que nous devons obéir au commandement de la loi mosaïque? Non pas sur la base d'une relation avec Dieu. Mais le principe qui est enseigné dans le premier commandement, le plus grand commandement, est-ce que nous devons lui obéir? Absolument. Et vous savez, pour déterminer cela avec une certitude absolue, il faut simplement aller dans les Épîtres et chercher s'il n'y a pas un texte quelque part qui réitère ce commandement maintenant pour l'Église. Nous ne sommes pas sous la loi, mais nous ne sommes pas sans loi. Vous avez saisi ça? Sous quelle loi sommes-nous? La loi de Christ. La loi royale, dit Jacques. La loi de l'Écriture. La loi qui nous a été donnée à travers les commandements des apôtres, avec autorité apostolique. Et j'aimerais vous présenter le premier commandement, qui est là, le plus grand commandement, pour l'Église. Dans les termes de l'Église, dans les mots de l'Église, qui reflètent exactement la même chose que ce que nous avons ici dans la loi mosaïque. Tournez avec moi dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12, nous dit ceci au verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligents et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. » Ce passage ne dit-il pas exactement la même chose que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, l'intérieur, de toute ton âme, ta personne, ce que tu es, et de tout ton me'od, de tous tes biens, de toutes tes ressources? Il dit d'offrir vos corps en sacrifice vivant. Vous donnez tout au Seigneur. Quelle belle démonstration d'amour envers le Seigneur. Il y a des croyants qui disent « J'aime Dieu! » Mais pas assez pour lui laisser gérer mon compte de banque quand même. « J'aime Dieu! » Mais pas au point de renoncer à certains loisirs pour me consacrer à son service. T'aimes vraiment Dieu? Ben, pour l'apôtre Paul, aimer vraiment Dieu dans le contexte de l'Église, c'est de s'offrir en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et c'est comme ça qu'on aime vraiment Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre mode, de toutes nos ressources, forces, pensées. C'est comme ça qu'on aime le Seigneur. Est-ce que je trouve dans les commandements de la loi de Christ la même vérité? Bien sûr, exprimée dans d'autres mots, mais ça dit exactement la même chose. C'est ce que Dieu veut voir dans nos vies. Et c'est comme ça que vous aimez le Seigneur. Et imaginez, ici ce n'est pas donné comme étant « Ok, fais ceci, fais cela, Dieu sera content dans le ciel. » Ce n'est pas le point. Nous ne sommes pas dans ce genre de relation basée sur l'alliance avec Dieu. Nous sommes dans une relation vivante, authentique, de fils et filles de Dieu avec un Père céleste et un Sauveur, un médiateur. Vous réalisez que cela est une plus grande relation qu'Israël à travers la loi mosaïque et les commandements de la loi mosaïque. Ils étaient rachetés par la foi, par la grâce, de la même manière. Mais leur engagement et leur relation avec Dieu étaient basés sur l'observation de commandements. Tu fais ceci, tu fais cela, sinon il va arriver ceci, sinon il va arriver cela. Mais ce n'est pas ainsi dans l'Église. Nous avons toujours le même commandement d'aimer Dieu de tout notre cœur, de cette façon-là, comme Paul l'exprime dans ses mots, en s'offrant sacrifice. Pourquoi? Parce que nous aimons le Seigneur, parce que nous avons son esprit. Et comme Paul le dit, ce n'est plus non plus selon la lettre, mais selon l'esprit. Voilà comment nous devons aimer Dieu, de tout notre cœur. Bien sûr que j'observe ce commandement, ce premier commandement. Pourquoi? Parce que je suis à Dieu, je lui appartiens. Il a mis son amour dans notre cœur et on peut l'aimer comme ça. Sur la base du simple fait que nous sommes reconnaissants, voilà ce qui nous appelle à obéir à ce commandement. Donc, il est dans un sens toujours valide pour les croyants de l'Église, mais il est exprimé dans des mots différents. Alors, bien que la loi mosaïque ne soit plus en vigueur, qu'elle a été amenée à son terme par la mort de Christ à la croix, les principes de la loi mosaïque sont toujours vrais dans la mesure où ils sont réitérés dans le Nouveau Testament en tant que principes et non pas en tant que loi. Nous sommes dans une relation privilégiée avec le Seigneur, non pas sur la base d'une alliance, mais sur la base d'une élection souveraine de la part du Seigneur. Vous avez été élus. Lisez Éphésiens 1 à ce sujet. Lisez Romains 8 à ce sujet. Et vous voyez à quel point nous sommes graciés, précieux, choisis par le Seigneur. C'est pourquoi nous l'aimons. Parce qu'il a mis son esprit en nous. Alors ce commandement est toujours le premier. Il est toujours le plus grand commandement. Il est vrai pour nous, bien qu'exprimé dans des mots différents et obéi sur une base tout à fait différente maintenant. Alors Dieu voulant, nous allons passer au mois de novembre à la deuxième partie de la réponse du Seigneur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous allons prier. Et s'il y a des questions, je pense qu'on peut avoir quelques minutes. Nous allons terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, que ta parole est riche, que ta parole est profonde, elle est vivante. Merci Seigneur de nous avoir donné ta parole. Merci de ce que tu t'es révélé à Israël, premièrement, et qu'à travers Israël, tu t'es révélé aux nations. Et que même si Israël t'a rejeté, tu as mis de côté ton peuple sans le rejeter pour ouvrir aux nations le salut par la foi en Jésus-Christ et tu construis ton Église encore aujourd'hui. Et nous avons une relation avec toi, Seigneur Jésus, qui est unique, particulière.
et nous t'en bénissons de ce que nous en faisons partie. Puis, Seigneur, apprends-nous à t'aimer comme nous venons de le voir, comme nous venons de l'étudier. Nous voulons t'aimer de tout notre cœur, de tout ce que nous sommes à l'intérieur, mais toute notre personne et tous nos biens, nos ressources, notre temps et quoi d'autre, Seigneur. Fais que toute notre vie te soit agréable et soit vraiment un sacrifice vivant pour toi. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que nous prions. Amen. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Je ne sais pas si j'ai l'habitude de faire, mais...
Il y a beaucoup à la fois. juste insister sur un point à la fin. Il y a toujours une distinction entre Israël et l'Église. Et notez cela dans l'Écriture. Nous sommes dans une relation particulière. De plus en plus aujourd'hui, on entend des chrétiens parler avec des termes de royaume, de roi. C'est vrai que Jésus est le roi des rois, mais le royaume n'est pas encore arrivé. Et la relation que nous avons avec le Seigneur, elle est autre que celle de sujet à un roi. Bien sûr qu'il doit régner dans nos cœurs, qu'il est le roi des rois, il n'y a aucun doute. Mais la relation que nous avons avec lui, elle est plutôt celle d'une relation d'un corps uni à la tête. Il faudrait comprendre ces implications-là. D'un époux à son épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. Et nous sommes dans une relation vraiment tellement distincte qu'il va nous prendre avec lui. Et Israël a un avenir dans les plans de Dieu. Et Israël va trouver sa place aussi dans les plans de Dieu. Et aujourd'hui, j'exhorte les chrétiens de l'Église. Oui, ils peuvent parler de l'avancement du royaume s'ils veulent, mais pourquoi ne pas parler de l'édification du corps de Christ? Pourquoi ne pas parler de l'édification de l'Église? Parce que c'est ce que nous sommes, l'Église, unique dans les plans de Dieu, un mystère, un aspect du royaume mystérieux qui n'était pas révélé dans l'Ancien Testament et dont nous avons le privilège de faire partie. Faisons tout en vue de l'édification de l'Église et ce sera surtout cet aspect-là que je vais développer dans aimer son prochain comme soi-même. Ça va? Merci beaucoup de votre attention.